dans les coulisses de Red Bull Bora Hansgrohe, le podcast d'OVB Online sur le Tour de France. Pendant 3 semaines, nous accompagnons le manager de l'équipe, Ralf Denk, au cœur de la plus grande et la plus titrée des équipes cyclistes allemandes sur la Grande Boucle. Vous avez des questions pour Ralf Denk? Envoyez-les à tobias.rufhof@bmedia.ma et profitez bien de ce nouvel épisode. Søren Varenskjold remporte la 11e étape du Tour de France. Il n'y a aucun changement au classement général. Entrons dans cette journée de Tour avec le manager de l'équipe Red Bull, Bora Hansgrohe. Bonjour à Ralf Denk en France.
Bonjour et bonne soirée à Rosenheim.
Oui Ralf, regardons l'étape d'aujourd'hui. Dans l'ensemble, est-ce que nous, et surtout toi, nous attendions à ce scénario ? Le sprint et le résultat final, c'était fou, non ? Comment vois-tu les choses ?
Oui, alors le déroulement, oui, c'était comme je m'y attendais. Et il n'y a pas eu beaucoup de résistance jusqu'à ce que le groupe se forme. Ça, cela a pris quelques kilomètres, mais le groupe a fini par se constituer. Ce qui m'a surpris, c'est qu'en finale, Alaphilippe a lâché très tôt. C'est normalement un coureur endurant. Il a quand même été 2 fois champion du monde, mais il n'a plus pu suivre le groupe. Et le final n'était pas comme d'habitude, où les équipes s'alignent pour faire une sorte de course de dragsters, équipe contre équipe, mais elles ne se sont formées qu'à 1,8 km de l'arrivée. Et pour moi, c'est le signe que tout le monde est déjà épuisé. Normalement, les équipes se forment 10, 15, 20 kilomètres avant la fin pour préparer le sprint. C'est une lutte acharnée pour la position. On se bat et cela demande énormément d'énergie, surtout aux équipiers. On n'a pas vu ça aujourd'hui. Pour moi, c'est un signe majeur que tout le monde est déjà épuisé, que ce soit les équipiers ou les leaders. Nous avons eu jusqu'ici un Tour de France très, très dur et c'est pourquoi le final un peu étrange, comme tu l'as dit, avec un vainqueur qui a eu beaucoup de courage de tenter sa chance. Il a trouvé l'ouverture. C'était une petite ouverture, mais il l'a trouvée. Bon, il est parti assez tôt et a réussi à conserver son avance jusqu'à l'arrivée.
Mais il faut aussi dire que Søren Varenskjold de l'équipe norvégienne Uno X n'est pas un inconnu.
Il a déjà remporté la grande classique cycliste Omloop Het Nieuwsblad d'une manière similaire. C'est un coureur très fort, un rouleur endurant, pas le plus rapide au sprint, mais ce n'était pas nécessaire ici. Il a su maintenir un rythme élevé sur plusieurs centaines de mètres et a donc mérité sa victoire.
Les équipes de sprinteurs ont-elles manqué de détermination?
Je pense au niveau de la main-d'œuvre.
Au niveau de la puissance, et peut-être aussi, c'est une conclusion, si tu n'as pas la puissance, tu ne peux pas rouler de manière constante. Et je suppose plutôt que tout le monde s'est dit « atteignons l'arrivée ». Pour moi, c'est très étrange. Il a déjà gagné des étapes ici. Fernando Gaviria de l'équipe espagnole Caja Rural. Il a eu une crevaison à quelques kilomètres de l'arrivée. Il est revenu assez facilement. À une allure normale, il ne serait jamais revenu. Et pour moi, c'était aussi un signe qu'à 2 kilomètres de l'arrivée, le rythme était relativement faible comparé à d'autres étapes de sprint.
Varenskjold, qui a chuté hier, il est arrivé dernier. Thorstein Tran avait déjà porté le maillot jaune. L'équipe décroche enfin la victoire d'étape et ils ont attiré énormément l'attention avec cette histoire d'hôtel. Uno X Mobility, l'équipe norvégienne, écrit ces histoires si particulières sur ce Tour de France.
Absolument. Et j'aime beaucoup leur approche. D'abord, ils se concentrent sur les coureurs norvégiens et danois. Nous l'avons déjà mentionné ici, ils se limitent énormément, bien sûr, mais ils réussissent quand même. Ils ont, avec Uno X, un partenaire majeur de Scandinavie et ils font les choses de manière très, très cohérente. Ils sont aussi un peu considérés comme des bêtes d'entraînement, donc 4, 5, 6 heures de séance en intérieur en hiver, ce n'est pas un problème pour eux.
De plus, les sorties par des températures bien en dessous de zéro ne leur posent aucun problème. Ce sont de vrais enfants de la nature et ils se comportent comme tels. Ils n'ont personne pour l'instant qui puisse viser le podium du Tour. Ils ont quand même fini sixième au classement général l'an dernier. C'est acceptable et plutôt bien, mais ils se concentrent aussi sur les étapes et ils ont porté le maillot jaune pendant une journée. Ils viennent de gagner une étape et ils sont en première année dans le World Tour. Ils sont montés l'an dernier et je suis content pour eux. Je connais aussi bien le manager Thor Hushovd et c'est aussi nouveau pour lui. C'est sa première équipe qu'il dirige. Il était lui-même un coureur cycliste à succès et même champion du monde. Et de ce point de vue, c'est un projet sympa et je suis content pour les gars.
Et tous ceux qui se souviennent encore de Thor Hushovd auront eu le cœur qui bat la chamade aujourd'hui. Ça a dû lui plaire. Passons à Red Bull, Bora Hansgrohe. J'ai vu un court problème technique pour Jan Tratnik. Il a tout de suite levé le pouce. Tout s'est déroulé comme sur des roulettes. Ils sont tous bien arrivés, non?
Oui, tout le monde est arrivé à bon port. Une fois l'étape lancée, je reçois aussi une mise à jour médicale. Cela semblait très, très bien ce matin, après l'étape difficile d'hier. Tous les indicateurs sont au vert. Cela signifie que notre équipe médicale fait un travail formidable jusqu'ici et peut confirmer que tout le monde se sent bien.
Il y a eu relativement beaucoup de crevaisons aujourd'hui. Coïncidence ou y a-t-il parfois des étapes, des conditions de route où cela arrive plus souvent? Quel est ton avis là-dessus?
Oui, ça existe déjà. Bon, le sujet des pneus mériterait à lui seul toute une série. On peut tellement parler des pneus et de tout ce qui a changé ces dernières années. La plupart des équipes utilisent des pneus tubeless avec du liquide préventif. Et au niveau de la conception, c'est toujours un exercice d'équilibre. Moins il y a de résistance au roulement, moins il y a de protection contre les crevaisons. Et les équipes vont évidemment à l'extrême, surtout sur des étapes où une panne n'est pas si déterminante, car en général, on revient toujours bien si on a un problème de pneu. Oui, et c'est toujours un jeu dangereux pour les équipes, selon le fournisseur que vous avez. Nous utilisons des pneus Specialized, mais nous avons différentes versions. Nous en avons des très rapides avec relativement peu de protection anti-crevaison, mais nous en avons aussi qui offrent un peu plus de protection, et c'est donc toujours un peu un jeu pour les techniciens.
Est-ce qu'on utilise ce genre d'étape comme un ballon d'essai dans des conditions extrêmes? On parle du Tour de France. Alors, ça, dans l'entraînement, on peut simuler des choses. Mais sur un Tour de France, pour moi, quand on dit qu'on teste, ce sont des conditions extrêmes où l'on se garde, oui, une sorte de filet de sécurité, parce que ce n'est pas une étape pour vous, par exemple, où tout se jouera.
Non, nous parlons toujours du Tour de France et le Tour de France n'est pas un terrain d'expérimentation. Nous faisons énormément de tests de pneus et souvent, ce sont nos équipes de jeunes qui reçoivent les prototypes en premier. Ils les testent alors en conditions de course. C'est aussi en partie une stratégie de notre part que le nouveau matériel soit souvent testé par les moins de 19 ans, les moins de 23 ans, par nos débutants. Et ce n'est qu'une fois que c'est vraiment validé que ça arrive chez les professionnels. Et nous ne faisons pas d'expérience sur le Tour de France.
À un peu plus de 7 km de l'arrivée, on vous a vu très groupé en tête de peloton. Y avait-il une raison particulière?
Oui, on n'est pas encore dans la zone de sécurité, disons, à 7 km de l'arrivée. Il faut rester très concentré et se rassembler. Et ce n'est qu'en atteignant la zone de sécurité à 5 km de l'arrivée que s'il arrive quelque chose, on obtient le temps du vainqueur. Et c'est pour ça qu'on s'est encore mieux organisé.
D'accord, j'envoie maintenant mes salutations au Vélo Club d'Eurosport. La question a été soulevée. Tu nous avais parlé de ce gentleman's agreement, des équipes qui jouent le classement général et que Pogacar a dit personnellement, comme tu nous l'as rapporté, que ces équipes se retiennent. À partir de quand ce gentleman's agreement, comme tu l'as appelé, est-il en vigueur?
Ouais, il ne faut plus accorder trop d'importance à cela dans le cyclisme moderne. Autrefois, quand les grands protagonistes comme Eddy Merckx ou Lance Armstrong parlaient, cela avait plus de poids que dans le cyclisme moderne d'aujourd'hui. Mais malgré tout, je trouve que les équipes qui se battent pour le podium ne se gênent pas tant que ça dans les finales au sprint. Et je touche du bois, aucun des favoris au classement général n'a vraiment chuté ou ne s'est blessé dans un sprint final jusqu'à présent. Et la façon dont ça se passe actuellement, je trouve ça plutôt bien. Le fait que les coureurs discutent entre eux est secondaire pour moi. Il faut trouver un bon équilibre, faire la course, mais sans risquer tout le Tour de France sur une étape comme aujourd'hui.
Mais est-ce que Pogacar doit y aller tous les jours pour le renouveler ou est-ce qu'on se met d'accord une fois pour toutes?
Nous, du côté de la direction sportive ou de la direction de l'équipe, nous ne voulons pas connaître ces détails. Laissons les gars régler ça sur le terrain. Ils s'entendent bien pour la plupart. Il y a une bonne harmonie dans le groupe et ils doivent gérer ça entre eux. Nous ne voulons pas influencer les choses de l'extérieur.
Exactement, c'est ce que dit Pogacar en privé. Hein, il a fait une déclaration publique et là, nous passons directement au contexte qui a suscité beaucoup d'attention. Si j'en avais le pouvoir, je changerais complètement le calendrier des courses pour ne plus rouler en juillet et en août dans les régions trop chaudes. Cette déclaration est bien réelle et elle ne vient pas de n'importe qui. Elle vient du patron, du maître en personne. Quel est ton avis là-dessus?
D'abord, je trouve ça bien qu'un sportif aussi emblématique ose s'exprimer. Que je sois ouvert et que je me sois battu pour des changements, c'est connu si vous avez écouté ou lu mes interviews durant la période du coronavirus. Je me suis aussi battu pour qu'un Tour de France ait lieu en août et même pour qu'un Tour d'Espagne se tienne en novembre, car au début de la saison, nous ne pouvions quasiment pas courir à cause du confinement. Et en effet, on peut discuter pour trouver une meilleure harmonie avec le climat. Ce qui est fixé pour moi, ce sont les classiques printanières. Flandre, Roubaix, Liège, c'est un bloc. Milan-San Remo aussi, qu'il ne faut pas, je crois, démanteler. Et ce n'est pas pour rien qu'on les appelle les classiques printanières. Ce qu'on pourrait peut-être discuter, c'est de remettre la Vuelta d'août, je dis bien remettre, en avril ou fin avril. Elle était là dans les années 80, dans les années 90-80, définitivement, la Vuelta avait lieu en avril. Je m'en souviens encore quand j'étais un petit garçon. Et puis, je trouve que dans d'autres sports, et si je passe à la Formule 1, c'est aussi très intéressant qu'ils aient une pause estivale. Ils ont une pause estivale de 2 ou 3 semaines, sans Grand Prix, où les employés sont aussi en congé, c'est-à-dire que les usines des écuries de Formule 1 sont aussi en grande partie fermées, pour simplement permettre à tout le personnel de prendre des vacances d'été. Notre personnel n'a aucune possibilité de prendre des congés pendant la saison. Ils sont toujours obligés de partir en vacances durant les mois pourris de novembre ou décembre.
Décembre, ça va encore, où ça devient plus compliqué car il y a les stages d'entraînement, novembre, et novembre n'est pas vraiment le mois idéal pour partir en vacances.
J'aimerais vraiment qu'on accorde à toutes les équipes une pause estivale et qu'on prolonge peut-être la saison un peu plus tard. Je trouve ça bien que Tadej Pogacar fasse une telle proposition. Je m'assiérai aussi à la table en tant que représentant d'équipe pour en discuter. Il y a certainement des idées passionnantes, mais certaines choses sont pour moi intouchables, comme les classiques du printemps. Mais nous avons aussi les Jeux olympiques tous les 4 ans, et les prochains Jeux olympiques ont lieu le 22 juillet 2028 à Los Angeles, donc en plein pendant le Tour de France. Et là, Asso se bat déjà pour avancer le Tour de France afin d'éviter tout conflit avec les Jeux olympiques. Et cela affecte évidemment énormément tous les autres organisateurs de courses. L'Asso veut toujours avoir la priorité. Nous décidons d'abord quand nos grandes courses ont lieu. Et ce n'est évidemment pas très élégant. Et il faudrait plutôt agir de concert. Et c'est là toute la difficulté du cyclisme. Il y a très, très peu de cohésion.
Donc, un Tour de France qui commencerait mi-août ou fin août, si je comprends bien, c'est tout à fait envisageable, selon toi.
Pour moi, c'est envisageable. Si les coureurs se sentent mieux et qu'il fait moins chaud, pourquoi pas? Je n'aimerais pas courir Paris-Roubaix en août, car c'est une classique printanière. Elle a sa place en avril. Mais pour le Tour de France, cela ne changerait rien pour nous qu'il ait lieu en juillet ou en août.
Eh bien, une Coupe du Monde de football dure désormais 6 ou 7 semaines et elle est très bien accueillie. Bien sûr, avant le début, on disait que c'était beaucoup trop long, que personne ne regarderait et que les stades seraient vides. Oui, et que se passe-t-il ? Il y a les gens regardent, les gens, donc, je ne parle pas de tout ce qui est expliqué autour, mais sur le plan sportif, ils sont totalement emballés par cette Coupe du Monde. Donc je pense qu'il s'agit plutôt de dire « c'est comme ça qu'on a toujours fait ».
Tu viens de Bavière, j'habite en Bavière. C'est un peu la norme ici. On a toujours fait comme ça, alors on continue. Parfois, je pense qu'il faut briser les structures et s'adapter aux réalités.
Absolument, car le comportement du consommateur ou du fan dont nous vivons, en fin de compte, change aussi et il faut être ouvert au changement. Je crois qu'il est très important d'être ouvert au changement en général. Et on pensait aussi, si je reviens à la Formule 1, que c'était la référence absolue quand Bernie Ecclestone gérait la Formule 1. Mais quand Bernie Ecclestone est parti et que Liberty a pris le relais, il y a eu un vrai changement et une vraie croissance en Formule 1. Cet exemple montre aussi qu'en étant ouvert au changement, on peut définitivement continuer à grandir.
Exactement. Je sais aussi que tu as beaucoup d'idées pour que le cyclisme prenne encore plus d'ampleur. Nous en reparlerons volontiers dans les prochains jours. Sur ce sujet de la canicule et de la manière de changer ou d'adapter les choses, une suggestion a été faite de prévoir des départs plus matinaux. Honnêtement, si je peux donner mon avis, à quoi bon? Même en partant à 10 heures, on finit quand même par rouler en pleine chaleur de midi sous un soleil de plomb. Et il faut aussi penser aux téléspectateurs où les gens travaillent, qu'ils finissent un peu plus tôt à 15 heures pour voir la fin de l'étape. Je le comprends, mais si l'étape se terminait à 15 heures, j'ai le sentiment que les audiences chuteraient. Quel est ton avis là-dessus?
C'était mieux avant. Pour moi, c'est un non-sens. Je suis tout à fait d'accord avec toi, car nous avons à peu de choses près et des heures de départ ici, selon la longueur de l'étape, entre 11h30 et 13h30, voire 14h aujourd'hui. Ce sont normalement les heures de départ classiques de l'étape. Et si tu avances de 4 heures, tu arrives 4 heures plus tôt, cela signifie que l'arrivée n'est pas vers 17 heures, mais plutôt en début d'après-midi. Et premièrement, il fait encore plus chaud vers 17h30 à l'arrivée. Et deuxièmement, les gens normaux sont au travail. Donc pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Là où je serais ouvert à discuter, c'est pourquoi ne pas décaler le départ encore plus tard. Je sais que si je proposais ça dans mon équipe, ce serait d'abord un tollé général, car on dînerait encore plus tard. Le dîner pour le personnel ici, c'est toujours entre 22h30 et 23h. À quelle heure, reculer encore, on dînerait à 1h, à 2h du matin après le travail. Mais pour un fan, je pense aux fans, si l'arrivée, et c'est possible en été, n'a lieu qu'à 21h, je pourrais imaginer que ce soit même assez sympa de rouler jusqu'à la tombée de la nuit, car les gens ont le temps, ils peuvent allumer la télévision et on peut suivre la course sur les réseaux sociaux.
Alors, cette proposition, j'aimerais au moins en discuter.
Oui, nous avions discuté de ces étapes de sprint qui, en termes de longueur, ne sont pas si longues. Pour une étape de montagne, on ne peut pas installer des projecteurs partout en haute montagne. Je crois que nous sommes d'accord là-dessus. Mais pour ce tour, par exemple, le contre-la-montre par équipe à Barcelone, la première étape Paris est aussi relativement tard. Peut-être que pour les étapes de sprint, ce serait une idée, comme tu le suggères, de dire qu'on part plus tard pour avoir un sprint du Tour de France à 1 heure de grande écoute, vers 19h.
Oui, mais la France est plus à l'ouest. Il y fait jour un peu plus longtemps qu'à Rosenheim. Je n'ai pas besoin d'éclairage pour l'instant. Sur la côte atlantique, il fait jour jusqu'à presque 23 heures. Je peux donc facilement faire une course cycliste jusqu'à 21h30 en été. Et c'est peut-être la solution idéale. Il y fait alors nettement plus frais.
D'accord, nous gardons cela à l'œil. Passons maintenant à l'actualité qui aura lieu demain jeudi. Cela commence à 13h30. L'arrivée est prévue à 17h30. Du circuit Manicou, retour au sport automobile, direction Chalon-sur-Saône. 180 km au programme, 3 ascensions de 4e catégorie. C'est un peu plus vallonné qu'aujourd'hui. Tu aimes nous donner une estimation en pourcentage entre sprint massif et échappé. Quel pourcentage as-tu apporté pour nous aujourd'hui ?
Oui, c'est un peu plus vallonné, 3 classements de la montagne, 4e catégorie, mais j'ai feuilleté le roadbook un peu plus loin et il y a plus tant d'occasions de sprint. Et je pense que demain pourrait peut-être même être l'une des dernières opportunités limitées. Mais pourquoi? Je pense que les sprinteurs ou leurs équipes, je pense à Soudal Quickstep, à Decathlon avec Olaf Köhl, et aussi à Astana avec Max Kanter qui sprinte plutôt bien ici, ce qui me réjouit en tant qu'Allemand. Je crois qu'il y aura un sprint demain et je prends le risque à plus de 90%.
Et donc, tactiquement, comme pour toutes les étapes de sprint jusqu'ici, quelle est votre approche?
Oui, donc nous voulons économiser nos forces avant d'arriver doucement dans les Vosges, car l'étape de samedi dans les Vosges sera particulièrement difficile. C'est sur les traces de l'époque où Udo Bölts disait à Jan Ullrich en 97 « souffre, espèce de porc ». C'est à peu de choses près le même parcours et il sera vraiment dur samedi. C'est pourquoi nous n'avons aucun problème à ce que demain soit un peu plus calme pour pouvoir reprendre notre souffle.
Exactement. À propos de « souffre, espèce de porc », mon collègue Corbinian Sauter prend le relais pour les 4 prochains jours. Ce n'est sûrement pas une souffrance. Corbinian s'est qualifié pour l'Ironman d'Hawaï. Très peu de gens y parviennent. Alors, Ralph, pour ce qui est de la chaleur et de la façon de la gérer, vous pouvez vous renvoyer la balle. On se reparle la semaine prochaine. Je te dis merci pour aujourd'hui. Tu seras bien sûr de retour demain avec notre Ironman Corbinian. Merci. Salutations à la France et à la semaine prochaine.
Très bien. Je me réjouis pour l'Ironman. Enfin, on est déjà un Ironman quand on se qualifie. Je crois qu'il faut en finir un. Je ne connais pas très bien ce sport, mais je suppose que c'est le cas et j'ai hâte d'en discuter demain matin.
C'était l'édition actuelle d'Inside Red Bull Bora Hansgrohe, le podcast d'OVB Online sur le Tour de France. Vous trouverez le podcast sur toutes les plateformes d'écoute habituelles et sur les sites d'OVB Media et Deepen Media. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine édition.